Les grands entretiens. Aujourd'hui avec Wim van de Kebus. Wim van de Kebus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes danseur, chorégraphe, mais aussi photographe et cinéaste. Vous dirigez la compagnie Ultima Vez, que vous avez créée en 1986, et avec laquelle, en 2009, vous venez, ou plutôt revenez, au Festival de danse et des arts multiples de Marseille, avec New Swart, une nouvelle création. 1986-2009, 23 ans de cette Ultima Vez. Vous êtes quelqu'un de fidèle, Wim.
Oui, on est venu beaucoup à Marseille, mais bien sûr, on voyage toujours. J'ai fait 26 pièces, et toujours, ça fait le tour du monde presque. Spiegel, la dernière reprise qu'on a fait, en fait, ça a joué 140 fois, moins que 80. Donc, oui, ici, Nieuwswaard, ça commence à tourner, c'est tout frais, en fait. On a eu la première le 9 mai à Barcelone. Et c'est une compagnie maintenant, je voulais faire une création avec que des nouveaux acteurs, pour juste garder le frais, en fait, et pas que les autres gens sont plus bons, mais qui sont prêts à commencer leur travail. Donc ils font des créations, on les supporte, on a plein de Ultimates, les amis de Ultima Vez. Et ici, on est avec une nouvelle compagnie, en fait, qui commence à tourner, ouais.
Fidélité, donc, pour vous, ça ne veut pas dire tourner avec les mêmes gens et de la même façon et refaire la même chose, mais au contraire, vous renouvelez continuellement.
Je pense qu'il faut, parce que c'est très difficile, ou c'est plutôt facile de refaire ce qu'on a fait. Mais pourquoi, on a un hit, on essaye de faire la même chose, mais j'essaye toujours d'éviter de détruire beaucoup. Ça fait des années que je suis très occupé avec c'est quoi les murs qu'on construit, comment il faut les abattre pour donner chance à une autre chose. Ici, c'est plutôt abstrait. J'ai travaillé beaucoup plus abstrait de nouveau, mais avec quelque chose fondamental qui m'occupait il y a 20 ans et qui m'occupe encore maintenant, que je cherche toujours des nouvelles formes.
Vous avez repris, je crois, en 2002, What the Body Doesn't Remember, qui est votre première pièce. Ça semble indiquer que vous êtes fidèle aux autres, vous êtes fidèle au changement, mais vous êtes aussi fidèle à vous-même.
C'était surtout, on existait 20 ans. Non, ça c'était Spiegel. What the Body, on a repris. Je suis pas une compagnie, on n'a pas une compagnie de répertoire, en fait. Toujours, je crée avec les personnes. Et quand ils partent ou quand ça change, c'est très difficile de le reprendre. Bien sûr, à un certain moment, on commence à dire le public de maintenant et le public d'il y a 20 ans, c'est un autre public, même d'il y a 10 ans. Les danseurs de maintenant, c'est des danseurs différents des danseurs d'il y a 10 ans. Donc, il faut aller avec le temps, continuellement changer et aussi se questionner. Est-ce que, pour moi, ça, j'ai besoin d'une raison pour que je dise ça vaut le coup que je fais ça. Je ne veux pas travailler de... juste comme un travail et je suis bien dans ce poste ou je sais pas. Et dans ce sens-là, je pense que c'était bien de regarder en arrière, surtout pour les nouveaux danseurs qui sont en fait curieux pour voir comment était le travail avant, qui était beaucoup plus brut peut-être, moins dansé. On lançait des briques, on tapait sur le sol, on évitait, mais avec lequel on a créé quand même une nouvelle vague de danse qui disait ça à New York quand on a gagné le Bessie Award. C'était la révolution en danse. Pour moi, c'était une pièce, un spectacle. J'avais de l'argent, un peu de théâtre. Après, j'y revenais, ils disaient non, il faut aller chercher dans la danse. Et de refaire ça et de voir que c'était assez visionnaire, c'était assez catastrophique, assez sur l'urgence, sur toutes des choses. Et que maintenant, en fait, avec la crise où que tout commence à se défaire, en fait, les gens sont beaucoup plus occupés aussi avec ça. On ouvre les journaux, on voit des explosions, des trucs, des corps en catastrophe. Et moi, ça m'intéressait toujours ce truc de où ça peut aller mauvais. Et maintenant, on vit plus dans disons, la tendance de peur qui crée beaucoup aussi. Et moi, j'ai envie maintenant de travailler plus abstrait avec les choses fondamentales, de ne pas lever les doigts et voir et dire regardez comment ça va mal avec le monde, mais utiliser la scène toujours comme quelque chose de visionnaire plus qui m'occupe et pas refaire ce que les gens occupent maintenant. Et c'était intéressant de revoir quelque chose qui était là et que tout le monde disait comme c'est très contemporain. Et à côté de ça, de faire quelque chose de très nouveau, toujours.
De la Ultima Vez à la première fois, une rencontre en 1985 avec le plasticien et metteur en scène Yann Fabre. Vous interprétiez The Power of Theatrical Madness. Cette rencontre avec Yann Fabre, elle a déterminé en grande partie votre parcours, justement dans ce que vous venez d'évoquer, cette énergie considérable, cette dimension de folie aussi parfois.
Oui, je pense que la rencontre avec Yann, j'étais à l'université, j'étudiais psychologie, j'étais occupé avec photographie et cinéma, et je jouais comme acteur, en fait, dans une pièce de l'université, assez intéressant. Et puis Yann Fabre venait avec This is Theater Like to be Expected and Foreseen, une pièce de 8 heures, et j'étais vraiment... J'étais bouleversé, en fait, de voir une pièce de 8 heures avec des choses qui sont pas classiques, que les gens pouvaient partir, revenir. Et il faisait audition pour The Power of Theatrical Madness. Et puis, il m'a pris comme performer, parce que c'était des gens qui prenaient. Et j'étais en fait le roi nu qui faisait des parades. Mais dans sept personnages, comme ça. Donc, j'étais sur un spectacle de 5 heures, j'étais 3 heures nu. Mais c'était, bien sûr, quelque chose de très important pour moi. Pour voir comment ils construisaient et tout. Bien sûr, après Yann Fabre, c'était aussi difficile. Tout le monde disait, oui, mais après le maître, on ne peut pas refaire. Donc, c'était juste l'étudiant, en fait. Et je n'avais pas fait quelque chose. Donc, j'ai commencé tout à fait différent, sans des personnes qui étaient connotées avec lui. Et j'ai fait mon trajet. J'ai fait What a Body Does Not Remember. On a toujours resté en contact. Il est venu voir et tout. Et 10 ans après, il a retravaillé avec moi pour le solo
Body on the Wall.
Il dit, je veux faire quelque chose pour toi. Et c'était surtout un solo de texte avec l'art plastique où j'étais peint en 4 couleurs et à la fin, c'était tout noir.
Même s'il y a probablement dans votre travail des influences, des inspirations, on ne peut pas vraiment le référencer à aucun courant de la danse contemporaine. Ce qui est plutôt caractéristique, c'est la rencontre entre la danse, le théâtre, la musique, le cinéma. C'est la multiplicité des langages. Cette identité originale et la multiplicité des langages, c'est très belge, peut-être.
Peut-être, oui. Comme il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas de la danse, qui viennent d'une autre discipline, en fait, et à la fin, ils vont faire des spectacles. Et pour moi, c'est aussi, en France, on a beaucoup l'idée, il faut parler de la danse, analyser la danse, et pour moi, la danse, c'est un médium, c'est un tool. Et c'est comme la fourchette qu'on mange, mais la fourchette doit prendre quelque chose, tu ne manges pas la fourchette. Et pour moi, c'est comme ça. Donc, je commence et je vais... quelque chose que je veux parler de ça, même sans, faut pas parler de ça concrètement toujours, il faut aller travailler autour et tout, et puis l'inconscient est très important, c'est pour ça le nouveau noir, new black, new zwart, le nouveau titre aussi, c'est nouveau, mais d'un autre côté c'est noir dans le sens de richesse, le sens de l'inconscient qui est beaucoup plus grand que le conscient, que la réalité pour moi. Et puis, bien sûr, je commence à voir qu'est-ce que j'ai besoin pour ça. Et je commence presque à peindre. Et pour moi, comme si j'essaye de travailler avec musique live, la musique est une grosse inspiration. Après, je vais voir, est-ce que j'ai besoin d'un texte? Dans quel sens doit être le texte? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit comprendre? C'est plutôt comme de la musique, mais quand même, qui dit quelque chose de poétique. Puis, les mouvements, c'est un peu la même chose. Il y a trop de mouvements qu'on reconnaît. J'essaye toujours de rechercher la créature, la réinvention des corps des gens. Le cliché, on reconnaît, et tu peux inventer des clichés pour toi-même, mais pas le cliché que tout le monde reconnaît. La mythologie, c'est important, mais il faut réinventer la mythologie. Il faut le lire, après oublier, et puis dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et pas refaire comme tout le monde a fait. Et pour moi, c'est très important de créer des œuvres ou des pièces qui ont une histoire en soi qui n'existait pas, mais qui peut être très fort. Et qui peut avoir une basse super forte. Bien sûr, ça vient de beaucoup de côtés. À la fin, la lumière est importante, les gens qui écrivent. Je ne suis pas écrivain, je peux très bien venir avec des contenus et faire, mais quelqu'un qui écrit, c'est une autre profession. Ça va jusque les costumes, jusque autre chose. Mais pour moi aussi, les personnes qui sont sur scène, c'est déjà la première matière avec laquelle je commence. Cette multiplicité, il faut voir, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai fait beaucoup de films avec l'argent de la scénographie, parce que j'aime beaucoup le film. Et puis c'est des petites fenêtres que tu montes l'énergie jusque ça ne va plus, et puis le film continue, en fait, avec cette énergie. Et laisse à la fin pour se transformer de nouveau vers la scène. Bien sûr, on a aussi intégré le cinéma comme décor. On a plongé dans les écrans split où tu arrives dans l'eau et on échange le deux dimensions en trois dimensions.
Ah, c'est plus qu'un décor, ça interagit vraiment. Oui.
Ça, c'était dans Blush. Donc toujours la recherche, qu'est-ce qu'on a besoin, pourquoi. Mais juste mettre du film si ce n'est pas nécessaire, comme ici dans Nieuwswart, je ne trouvais pas, on avait la musique, on avait le texte qui était comme un voyage, et puis tous les danseurs qui étaient là. Qui se transforme chaque fois, et on travaillait beaucoup sur la rebirth, renaître. En fait, chaque fois tu toiles un riff qui bam 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 et une sorte de transe qui se lève et bouf, puis qui doit recommencer et qui suit un peu un autre chemin. Et c'est toujours ce truc. Donc le spectacle est devenu une grosse boule où tout est une unité. La musique, c'est le heartbeat. La personne qui parle, c'est presque la personne qui veut chercher un mot pour trouver son chemin. Et puis les danseurs, c'est un peu le tendon, les muscles, la recherche physique pour ça. Et c'était une grosse boule. Et à la fin, c'est super, parce qu'on peut commencer à peindre et tout. C'est pas ce personnage et celui-là. Et tout était comme un network. Et pour moi, c'était très abstrait, mais c'était très intéressant.
Tu l'évoquais à l'instant, la musique, c'est le heartbeat, c'est au cœur même de la création. Elle a souvent une place dans tes pièces de confrontation avec la danse, un rapport intense. C'est loin d'être une bande-son, c'est vraiment un élément extrêmement puissant et qui entre en confrontation avec la danse.
Oui, c'est surtout comme Mauro Pawlowski, qui est là, qui a fait la musique ensemble avec Jeroen et Elko. C'est une musique très structurée, mais d'un autre côté, c'est des gens qui regardent et qui jouent. Ils ont l'oreille. Après trois semaines, j'avais du matériel et tout. Ils venaient pour la première fois, ils installent leur guitare et leur batterie et tout. Et puis moi, j'ai dit, bon, on ne va pas tout de suite commencer avec la batterie. Et puis j'ai démonté un piano, j'ai mis le piano frame là. Et pour eux, c'était nouveau et tout. Mais surtout, c'est son. Et on a surtout parlé un peu de rituels. On dit que ça doit être comme un rituel, comme un tribal aussi. De nouveau, le tribal, en fait, d'inventer ça aussi dans la danse contemporaine. Bon, bien sûr, c'est là. Mais on n'est pas des Africains. On est des gens, en fait, qui vivent sans tribal. On vit avec l'extase, ou je ne sais pas. Mais d'un autre côté, cette chose de très rituel, dans une... un monde en fait où tous les rituels sont un peu diminués et c'est très formel par obligation. Et moi, je suis fasciné pour comment on peut faire ça sans qu'on a besoin des gens africains sur scène. Ça, c'est le cliché de nouveau. Et d'inventer ça. Et puis, avec la musique, ils commençaient à jouer. Ils jouent et ils changent pendant que moi, je faisais le puzzle. Et on avait tout de suite une heure, on ne parlait plus. Et bien sûr, après, il faut construire et tout. Donc, c'est un élément très interactif qui est venu à la fin avec des cues et tout. Mais c'est live, c'est fantastique. Chaque jour, ça peut être un peu plus long, un peu plus court. On est toujours juste parce que les gens réagissent l'un sur l'autre. Ça peut être des jours que c'est juste avant ou juste après, mais ça, c'est ce qui est beau, en fait, aussi.
Confrontation, on l'a vu avec la musique, déchirure aussi souvent entre le corps et l'esprit, entre l'instinct et l'intellect dans ton travail. Il y a beaucoup d'opposition et même parfois de la violence dans tes pièces, ou en tout cas un goût du danger, de la mise en danger.
Ici, je pense que c'est différent. Il y a 20 ans, on lançait des briques, on tapait sur le sol, j'ai fait plein de trucs, mais ici, c'est plus un danger psychologique, que dans le texte on a des fall me to life, tombe-moi en vie, qui cherchait pour cet élément de crèche, de courir, de fermer les yeux dans une forêt, courir jusqu'en paf, on se cogne, et des choses assez concrètes, de l'autre côté, qui tiennent un côté très abstrait dans la réalisation. Comment on fait? On montre pas ça. On a un sol qui est imprimé, qui c'est comme tous des trous. Et c'est le noir et le blanc se confrontent déjà. Et c'est comme tous des trous volcaniques qui ont fait une photo de 1895 d'une fleur de chardon. Un close-up de ça. Et on a trouvé le négatif en Allemagne avec des vieux qui avaient le négatif sur une plaque de verre, en fait. Et on a scanné ça, on a imprimé ça. Ça donne quelque chose de très volcanique avec plein de trous. Mais en fait, c'est une fleur. Donc j'adore aussi que l'abstraction de ce temps-là peut voyager 200 ans après et c'est en fait notre élément.
Le goût du danger autrefois et peut-être plus maintenant l'instinct de survie. On travaille sur l'instinct de survie.
C'est différent aussi. Maintenant, bien sûr, c'est cette nécessité de tomber. C'est aussi, j'ai plus envie de faire lancer une brique, c'est quelque chose de très concret. Bien sûr, on peut se cogner, on peut faire, mais de l'autre côté, c'est plus une qualité maintenant. Chercher la qualité, chaque individu, il y a 7 danseurs, c'est pas 10, parce qu'il y a 3 musiciens et un acteur. Cette chose, comment on peut, si tu peux faire un rythme incroyablement vite avec une qualité, ça peut devenir violent, mais ça reste une qualité. Lancer une brique et courir, c'est très direct. On est venu de là, mais il faut évoluer. Il faut voir la même chose dans une autre façon. Comme Buñuel disait, si dans la vie, tu as une ou deux choses vraiment qui sont à toi, qui sont tes obsessions, c'est beaucoup. Et bien sûr, j'en ai plus, je pense. Mais toujours, je reviens inconsciemment à quelque chose qui m'intéresse et que je cherche toujours de nouvelles formes.
En tout cas, cette déchirure, cette divergence entre le langage du corps et celui de l'esprit, il est quand même récurrent dans ton travail. Je pense par exemple à Her Body Doesn't Fit Her Soul, une pièce que tu avais créée en 93 avec des danseurs non-voyants. Là aussi, le corps ne correspond pas à l'esprit. Enfin, il y a quelque chose qui ne s'ajuste pas.
Je pense que oui, c'est toujours, on a des limites, on vieillit, on va mourir, on vit en fait dans le tabou de la maladie maintenant. Le tabou de sexualité, il y a longtemps c'est parti, maintenant c'est si t'es malade ou tu vas mourir, on sait plus quoi faire parce qu'on doit être, c'est un monde qui est très manipulé vers le sein, vers la beauté, le look extérieur en fait. Et toujours, pour moi, c'est comme ici, le grand choc, la violence, c'est peut-être naître. C'est comme tout le monde est en dessous de quelque chose. On tire et il change d'endroit. Et comment on peut... Bien sûr, un bébé qui naît, c'est quelque chose de fantastique, mais c'est probablement aussi quelque chose de violent. Après, on oublie. La nature est bien organisée. Mourir, j'ai vu mon père mourir. Et même si ça va petit à petit, c'est quelque chose qui est très, très intense. Ça peut être clash comme ça, et c'est quelque chose qui nous fait peur. Et moi, je pense que à cause de ça, on devient des êtres intéressants. Que parce que si on avait peur de rien, c'est des êtres totalement inintéressants, je trouve. C'est comme en Shakespeare. Tous les gens qui ont pouvoir sont intéressants parce qu'ils peuvent le perdre. Mais quelqu'un qui ne peut pas perdre son argent, il n'est pas en spot. Il n'est pas intéressant. King Lear, il devient intéressant quand il perd sa pouvoir. Et je pense que c'est des classiques, en fait, qu'on peut voir. Et moi, je les utilise aussi, mais différents. Je retourne, je renverse quelque chose, et puis après, la fille est très fragile, elle peut être très forte, ou je sais pas. Et c'est comme ça que je puzzle intuitivement, et après, si j'analyse, je dis, en fait, c'est la même chose. Donc on revient à quelque chose, mais quelque chose qu'on peut peut-être reconnaître. Il y a plus de King Lear. King Lear, si tu vois, en fait, maintenant c'est différent. Et il faut mettre les trucs dans le temps que les gens peuvent le reconnaître, et puis ça peut toucher. Mais il ne faut pas non plus juste entretenir les gens ou juste faire pour l'esthétique de beauté. J'ai toujours été contre ça, et je suis encore.
L'image, le cinéma, on a commencé à en parler tout à l'heure. L'image est apparue comme un élément de la scénographie de tes pièces. Mais aujourd'hui, ça devient un travail complètement distinct de la danse. Enfin, c'est deux lignes de travail qui se recoupent pas forcément.
Pas forcément. J'ai fait plein de films de danse, plus comme un exercice, film exercice, mais qui était très beau. Mais pour moi, maintenant, je suis occupé avec un long métrage que je vais probablement tourner en 2011, je suis très occupé avec pré-produire-le.
C'est une fiction.
C'est une fiction. Ça n'a rien à faire avec la danse, même s'il y aura beaucoup de gens de le monde de danse qui vont être dedans, mais c'est une fiction. Les personnages principaux, c'est des enfants de 8 ans. Et c'est un drame de famille, en fait, qui probablement va être filmé au Brésil. Ça ne veut pas dire que je filme plus, parce qu'il faut filmer, je trouve. Mais c'est aussi, si je suis occupé avec ça, chercher de l'argent pour ça et tout, je suis plus occupé avec le pré-produire ça. Probablement, je vais faire un court-métrage. Et ce n'est pas dit que ce court-métrage n'arrive pas dans le spectacle, que je combine les deux médias, en fait. Mais ici aussi, c'était et la musique, et la scénographie, la danse et le texte, pour moi, c'était assez. Un quatrième, ça serait trop pour les gens. Il ne faut aussi pas saturer, pouvoir, on peut utiliser tout. Pour moi, parce que dès qu'on projette ou quelque chose, c'est vite vidéo. Et moi, je suis plus cinéaste de Lugrin et tout ça. Maintenant, bien sûr, avant, on projetait en Super 16 avec le projecteur et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus vidéo et c'est plus plat, ou c'est pas. Et il faut voir, est-ce qu'on a besoin, ou est-ce que j'ai besoin de temps aussi pour aller filmer, que c'est pas juste filmer ce qui est sur scène et projeter. Ça, je me méfie de ça, en fait.
Des amitiés qui te relient aux générations, à la fois des anciens et puis aussi maintenant beaucoup avec des enfants, avec des plus jeunes. Pour les plus anciens, une amitié remarquable avec Carlo Verano. C'était dans La Mentira.
Oui, c'était un homme que j'ai rencontré en filmant. En fait, en Super 8, j'étais allé au port de Hambourg. Et j'avais une Elmo caméra, petite Super 8, et je filmais. Et puis, je l'ai rencontré comme ça, il était au bord. Et aux premières 3 minutes, il dit, est-ce que ça c'est un appareil photo? Je dis non, c'est du cinéma. Il a enlevé son chapeau, il commençait à danser et raconter des trucs. On est devenus amis, en fait.
C'était un chanteur de variété?
Variété, acteur, deuxième classe comme ça, pas le top, qui a joué à côté de Hans Albers, qui était le grand dans la guerre et tout, parce qu'il était né en 1903 sur un bateau. Et qui a eu trois femmes et tout. Et lui, il jouait à côté de Hans Albers. mais deuxième rôle. Et toujours, il n'a jamais fait, et ça lui... C'était sa frustration aussi, qui n'est pas le grand star, parce que dans sa tête, c'était encore un grand star, en fait. Et très fort, à la fin, il est venu habiter en Belgique, en fait, où il a vécu 2 ans avec nous. C'était la fin de sa vie, il ne pouvait plus vivre seul. Je dis, bon, on l'amène. Et il vivait là, et à la fin, on a jeté ses cendres dans la mer du Nord. C'était son vœu. Donc, c'était toute une histoire de ces dernières 10 ans de vie. Et qui a provoqué Her Body Doesn't Fit Her Soul. Et Alle Größen Decken Sich Zu. Toutes les grandes se cachent derrière les lunettes. En fait, une pièce de théâtre que j'ai fait avec tous ces textes, joués par 2 personnes. Une personne qui jouait son cavia et une femme qui jouait toutes les femmes dans sa vie.
Parlons des plus jeunes maintenant. Tu travailles volontiers avec des enfants. Plusieurs productions sont sorties de ces rencontres. Avis à la population et puis Rent a Kid. Est-ce que c'est quelque chose qui te ramène à ta propre enfance?
Dans un côté, oui, peut-être, parce que, bon, on m'a demandé, vous voulez travailler avec des jeunes de 14 à 17? J'ai dit non. Parce que ça doit être un fils, il est 7 ans et il doit être dedans. Alors on a dit de 7 à 18. Et c'était tout de suite 40 personnes, mais c'était fantastique. Et puis ils grandissent à la fin. Fernando, il a joué, quand il avait 11 ans, il a joué Oedipe avec le texte de Jan de Kort. Et on a fait toute une production, on a fait Oedipe et la fille était 9 ans et c'était la maman d'Oedipe, mais avec tout le texte et avec 12 enfants qui faisaient la musique, les Femme Femme Kids. Des Marocains, en fait, qui d'un quartier marocain, qui font un projet de batterie fantastique, qui voyagent à Ghana, partout, ils sont très connus. Ils faisaient la musique, et puis 12 acteurs. Et pour moi, c'était quelque chose aussi de travailler avec des enfants, c'est intéressant. C'est très difficile, parce que d'abord, tu as tous les parents qui te suivent. Donc, il faut aller au moins une semaine pour faire un film et tout, parce que c'est ça, avec les enfants, ça va, mais aussi, c'est un grand projet. D'ailleurs, aussi, je sais, dans mon fiction, avec le film, ça va être avec des enfants au Brésil, des enfants sans parents, même s'ils vont avoir des parents, mais je dois les diriger comme... Ah, ça doit être des acteurs, ils ne doivent pas juste... Ils doivent porter tout un film, donc ils doivent évoluer dans leur personnage, ils doivent apprendre plein de trucs, plonger d'un pont, voler des trucs, monter à cheval, en poney, dans la ville, à 3 sur le cheval et tout, donc ça va être une grosse aventure. Et pour tout ça, il faut du temps avec eux. Ça va très vite, parce que c'est pas comme dans une création que tu dois être. Travaille 3 mois et demi, des enfants, tu peux les voir chaque mercredi, le week-end, et c'est déjà beaucoup, ça change, c'est fait. Mais après, ça doit être vraiment une bande. Aussi, un groupe de théâtre, c'est la même chose, parce qu'il y a toujours un qui dit, nous, on apprend que même si on n'aime pas celui-là ou c'est pas, tu peux travailler avec les enfants, ça va pas. S'il y a un qui n'a pas envie, alors il dit, je monte plus sur scène, juste avant qu'ils doivent monter sur scène, c'est comme ça, c'est pas, ils n'ont pas de règles, c'est pur impulsif. Et c'est beau. Et ça aussi, je cherchais des gens comme ça, qui étaient comme ça aussi. C'était pas juste les flamands culturels intéressés qui amenaient leurs enfants. Je mélangeais ça avec des gens qui étaient de Nigeria, qui étaient des orphelins à Bruxelles, sans papiers. Il y avait 900 papiers qui étaient dedans.
Leur enfance, elle est très différente de ton enfance de flamand culturel intéressant.
Moi, c'était pas. Mon père était vétérinaire. Ma mère avait. On avait 6 enfants. Donc c'était la vie des animaux, de la terre, je faisais des arcs, des couteaux et tout, on avait des chevaux et tout. Mais culture, on avait très peu, très très peu. C'est que seulement à 17 ans comme ça que moi, je suis commencé à rechercher, mais c'était pas que... On faisait la musique, le gymnastique et tout, et c'est tout. Mais c'était un village, c'était pas dans toute ma famille. En fait, il n'y a que ma sœur qui est documentaire, qui fait des documentaires. Film. Et tout le reste, dans toute ma famille, il n'y a aucune personne qui est occupée avec la culture, qui vit de ça. Bien sûr, moi, j'habite à Bruxelles, mon fils, il est là, c'est très différent. On vit déjà dans ce monde. Maintenant, j'ai un deuxième fils qui est tout jeune, en fait. Et alors, on vit déjà, on est occupé avec ça. Chez nous, c'était pas. C'était vraiment, mon père, c'était urgence, quand le fermier avait utilisé tout ce qu'il pouvait pour ne pas appeler le vétérinaire, tout allait faux, il devait venir. La nuit, avec des chiens qui étaient sur des chaînes, qui courent vers toi. Juste avant, s'arrête, c'était plus un monde encore d'aventure de ça. Maintenant, vétérinaire, c'est très l'ennui parce que tout est artificiel et tout. Et dans le temps, c'était encore sauvage, en fait.
Dans tes pièces, il n'y a pas vraiment une dimension d'autobiographie pour faire écho à ce que tu viens de dire à propos de ta propre enfance. Il n'y a pas non plus de symboles, il n'y a pas vraiment de message. La construction, c'est quelque chose qui s'assimile un peu à une déconstruction. Il y a une structure non linéaire, une forme très éclatée du récit. Mais quel rapport tu entretiens avec la littérature, par exemple, des auteurs qui t'inspirent, ou d'une manière générale, ton rapport avec la littérature, avec le récit?
Je me suis beaucoup inspiré quand je faisais Waterbody. Le livre que tout le monde devait lire, c'était Les stratégies fatales de Baudrillard. C'était dans ce genre très philosophique, presque
théorique,
et les idées, comment voir les autres choses de l'excès, comment l'excès peut provoquer une mineure en fait, que en donnant plus que tu peux arriver en moi. Et pour moi, c'était quelque chose qui m'inspirait. Comment on peut pousser une énergie sur scène et arriver à une abstraction, une indifférence qui est très importante, qui ouvre des autres portes parce que tu le vois différent. C'est très important. Après, bien sûr, j'ai fait des histoires de Julio Cortázar, d'Italo Calvino, des courtes histoires, toujours twistées, comment je les réalisais. Après, j'ai porté le livre de Milorad Pavic, Le dictionnaire Khazar, qui avait une version féminine et une version masculine qui étaient les mêmes, faites avec deux mots de différence. C'était très inspirant parce qu'il tournait tout. C'était un livre où il y avait trois livres dans un livre, une version juive, une version islamique et une version chrétienne. Et puis tous les princesses et les gens, un qui rêvait la réalité de l'autre. Donc si un se réveille, l'autre retombe. Donc plein de choses qui étaient là-dedans, qui m'inspiraient vers quelque chose d'abstrait, parce que c'était toujours très twisté, pas réaliste. Et bien sûr, après Peter Verhelst, c'est l'écrivain flamand qui a écrit Tonkat, un livre qui se dit, waouh, c'est génial que je peux trouver quelqu'un qui parle ma langue, qui est aussi tellement twisté, mais dans l'autre côté, très poétique et très, qui va loin. Peter a travaillé plusieurs fois avec moi. Milorad Pavic, je l'ai rencontré aussi. J'allais filmer une de ses histoires, mais il avait vendu tout. Et à la fin, c'est pas réalisé. Dommage. Et puis, pour moi, des choses qui m'inspirent, c'est très différent, mais la littérature, pour moi, bien sûr, pas oublier Paul Bowles, que j'ai rencontré à Tanger. Toujours, à la fin, je suis curieux pour rencontrer ces personnes. Et comment, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça ensemble? Paul Bowles, qui était à Tanger, avec Saïd, le non-voyant, qui était de Tanger. On allait là, et on était à côté de son petit lit, avec la table, avec plein de médecine et tout. Et on parlait de la littérature et de films. Et c'était juste Bertolucci qui avait fait Sheltering Sky, qui l'aimait pas du tout et qui disait, on peut pas filmer mes histoires. Et à la fin, on avait le droit de faire Delicate Prey, une proie délicate, fantastique, courte histoire que j'aimerais encore faire. Et puis Paul Bowles est devenu aveugle petit à petit parce qu'il avait le cancer. Et puis il dit, maintenant je vais plus, je peux plus contrôler, je dois dire non, excusez-moi. Et puis 3 ans après, il est mort. Mais c'était des histoires comme ça, mais Paul Bowles aussi, ce truc de dans le désert où on arrive dans des autres trans, est très simple, mais très profond. Et ça, c'est des écrivains qui m'inspirent beaucoup, en fait.
Baudrillard, Paul Bowles, peut-être aussi Pasolini, Pier Paolo Pasolini, à qui tu as consacré Days of Heaven and Hell.
Pasolini, absolument. Je devais dire, c'était une sorte de commande avec quelqu'un dans le théâtre qui voulait faire ça ensemble avec moi, qui après un mois qui a dit, j'arrête, je le fais pas. Et puis moi, j'ai continué. Donc j'ai découvert Pasolini pendant la création, en préparé aussi, voir tous ces films, tout ce qu'il a fait, parce que nous, on connaît Pasolini par Salo. Salo, c'est pas un ordre, une initiative de lui, c'est lui, en fait, qu'on a téléphoné pour le finir.
Lui, il a fait des films très drôles. Il écrit, il les fait, mais c'est aussi très marrant comment il commençait à filmer. Il ne savait pas qu'on pouvait changer l'objectif, que tout il filme en Arabie. Et puis tout le monde parle parfaitement italien, des trucs que tu dis, mais comment il osait faire ça? En fait, ce n'était pas un connaisseur du médium cinéma, mais qui fait parce qu'il veut raconter, comme le troubadour avant qui va de village à village et qui chante, mais il chante son message. Pasolini était clairement quelqu'un, un porteur de quelque chose très extrême. Quand il était mort, c'était tout le monde contre, et il y avait du graffiti, que finalement il est mort. Les trois intellectuels qui lui interviewaient devant la caméra disent « on va le prendre ». Et puis lui, qui s'en sort juste avec ses réponses très, très simples, mais toujours c'était le provocateur. Quand son film sortait dans un cinéma, il sortait, les gens attendaient pour lui taper. Parce que c'était... Il était homosexuel, il était contre les homosexuels, et il était avec les pauvres, mais de l'autre côté, il allait les chercher avec sa belle voiture pour sortir avec eux. Donc tout était très ambigu, mais il était vraiment au-delà du bon ou du mauvais. Pour lui, c'était, il raconte quelque chose et c'est pas, il veut pas être moraliste. Et dès qu'il quitte cette idée théorique, on veut pas être moraliste, et alors il ouvre une porte que tu peux faire beaucoup plus parce que tu t'es plus occupé. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. En fait, les hommes, on est éduqués comme ça. Ça c'est pas bien, ça c'est bien, et on porte ça toute notre vie et on a besoin de ça pour voir que c'est pas le chaos dehors, pour qu'on sinon tout est possible. Dans l'autre côté, lui comme écrivain, comme penseur, comme provocateur, il était dans ses travail au-dessus de ça, peut-être dans sa vie professionnelle aussi, privée aussi. Mais à cause de ça, j'ai découvert qu'il y avait une porte qu'il a ouverte avec des endroits que nous, on ne pouvait pas arriver. Et puis, je sentais aussi, toujours on me dit, pourquoi tu vas tellement loin avec les gens et tout. Et c'est, je sens ça aussi, j'ai confiance dans les limites de nature. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, et puis il dit, oh, ça va craquer, ça va craquer, et puis tu vas plus loin, et puis tu arrives à un plateau où tu trouves autre chose, et si tu étais arrêté avant, jamais on allait découvrir ça. Et dans ma vie privée aussi, j'ai toujours ce truc de, ah, mais derrière ça, c'est pour ça le texte aussi de Peter Wells, mais non, chercher toujours aller la montagne, oui, mais derrière cette montagne, qu'est-ce qu'il y a? Toujours aller plus loin. Et je pense que c'est intéressant, surtout aussi avec les liens pasoliniens.
Un nouvel horizon, un nouveau plus loin avec Newsfart que tu viens présenter ici à Marseille au Festival de danse et des arts multiples. Tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, c'est ce nouveau noir, c'est ce titre, quelque chose qui fait appel à l'inconscient, mais peut-être quelques mots en plus pour évoquer ce travail, cette pièce, cette nouvelle création.
Oui, je pense que je voulais vraiment utiliser tous les médiums ou les moyens que tu as, qu'on a pour créer une pièce, et au même niveau. On a la musique, on a quelqu'un qui parle, ok, on a des gens qui s'inventent, qui recherchent dans des créatures qui ont une qualité énorme. Donc j'ai pris des danseurs qui ont déjà quelque chose comme ça. Et puis de créer quelque chose qu'on ne peut pas tout de suite placer. Donc, les premiers mois, je dis, je veux rien voir que je reconnais que je peux placer moi. Bien sûr, après un mois, on est là, oui, mais il faut aussi quand même quelque chose. Mais le fait que j'ai commencé comme ça, ça provoquait quelque chose, que le travail restait assez abstrait, mais assez... Et on pouvait aller loin dans les énergies. Et en fait, je trouve que beaucoup des choses sont énergie. Il ne faut pas diviser danse et texte. Il ne faut pas diviser danse et musique. C'est quelque chose qui est la même chose, mais ça peut-être un peu un autre... Danse est très musicale aussi. On entend la musique dans la danse. Et comme les deux étaient ensemble, c'était quelque chose qui se touchait tout le temps. Et pour moi, c'est une nouvelle façon pour pouvoir fasciner ou les personnes qui viennent voir, qui ne viennent pas. Ah oui, c'est encore un Van Mikaelbus travail qu'on va voir, ou je ne sais pas. Il faut... Le public évolue aussi. On est habitué à voir des choses. Et si on reconnaît trop, et je trouve que c'est déjà une tendance aussi dans la danse et dans la programmation de sécurité, quelque chose qu'on reconnaît, tout ça. On sent, avant on allait beaucoup au Japon, maintenant on va moins parce qu'ils prennent des autres choses qu'on reconnaît un peu plus, qui est un peu plus mainstream peut-être. Mais moi, je trouve que le public, le mainstream du public, a justement faim de quelque chose pour oublier et de pas tout de suite associer à quelque chose qu'ils reconnaissent. Mais que reconnaître quelque chose de très profond, d'élémentaire, que tout le monde a vécu. Il y a 5000 ans, les gens étaient confrontés aussi avec la naissance et la mort, et ils essayaient aussi de chercher un sens dans le trajet. Les Égyptiens, comment ils expliquaient tout, ils savaient de temps en temps beaucoup. Ils voyaient beaucoup plus que nous parce que c'était noir. Donc ils voyaient l'univers. Ils connaissaient toutes les étoiles et tout. Nous, on ne sait plus parce que tout est toujours éclairé. Donc on vit presque plus pauvre. Et à cause de ça, moi, j'ai une grosse faim pour aller vers des choses élémentaires qui sont les mêmes choses, mais qu'on oublie presque. Et ça, c'est pour moi, c'était un peu le départ de Nieuwswaard.
Tu reviens à Marseille, où tu es déjà venu précédemment proposer des spectacles dans ce même festival de Marseille. Quel regard, pour conclure, tu portes sur cette ville?
Oui, pour moi, toujours, c'est toujours l'aventure, Marseille. Parce que je pense que j'ai joué dans plein des endroits. Toujours, on te met dans un autre théâtre. C'est pas que tu viens dans le théâtre. Ici, bien sûr, c'est différent parce qu'on allait aller dans le port. On était très excités. Oh, on va dans des gros hangars parce qu'on a joué dans les places d'art ou le carré à l'intérieur. Puis on était dans le jardin, puis on était à l'intérieur. Donc c'est toujours quelque chose de différent, et aussi si tu joues dehors, bon, tu fais les lumières la nuit, et ici à 4h du matin le soleil est là, donc tu dois finir avant, donc j'ai passé plein de nuits comme ça aussi, que je dis comment ça va être. Maintenant on est dans un théâtre plus petit mais charmant, avec un public très près, et ça marche aussi, donc c'est toujours une équipe fantastique aussi, je trouve que c'est toujours, j'ai vraiment un public ici qui est très chaud, qui est très intéressé. Et je trouve cette ville a toujours une sorte d'aventure qui me plaît.
Merci Wim van Mikaelbus.
Merci, avec plaisir.
Van Mikaelbus et la compagnie Ultima Vez présentaient les 18 et 19 juin 2009 Nieuwswaard dans le cadre du Festival de danse et des arts multiples de Marseille, dont la programmation continue jusqu'au 11 juillet. Tous les rendez-vous sont sur le site www.festivaldemarseille.com.